Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. Émission coproduite par l'ANRAS, Association Nationale de Recherche et Action Solidaire, à la réalisation et la technique, comme d'habitude, mon complice Léo et votre serviteur André Satenza. Nous sommes en direct du studio Gisèle Halimi et je reçois aujourd'hui Madame Camas, directrice générale de l'association Réseau Résilience Occitanie. Madame Camas, soyez la bienvenue.
Merci, bonsoir à tous.
Je vais commencer par une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, l'ARS vient de communiquer un fonds d'urgence grand âge. Au niveau national, cela représente une dotation exceptionnelle pour les EHPAD qui sont en difficulté, 100 millions d'euros au plan national. Pour la région Occitanie, 10,4 millions. C'est pas rien, on pourrait s'attendre à plus, mais quand même. Mais il a fallu combien de rapports ? Il a fallu combien de communiqués ? Combien de fédérations se sont mobilisées ? Les directeurs, les directrices, les présidents, les présidentes, la FEAP, Nexem, les URIOPS, en fait, toutes les têtes de réseau qui ont manifesté, qui ont sollicité les députés, les sénateurs de notre région pour alerter, il y a des difficultés, l'inflation est là pour certains établissements, au bord du gouffre. Quand je dis certains établissements, certaines associations, on va peut-être se trouver en cessation de paiement. Mais là, on a compris qu'il fallait quand même faire quelque chose, examen des situations d'urgence de ces EHPAD. Soutien financier pour la région de 49 EHPAD, il faut le préciser, et 14 services à domicile. Alors, ce que l'on ne comprend pas, je dis bien c'est une mauvaise nouvelle, on ne va pas cracher, on ne va pas jeter cet argent aux orties, mais on ne sait pas quels sont les critères, on ne sait pas comment ces 13 commissions départementales en Occitanie ont discriminé pour faire cela. Et puis, on nous informe également, continuons dans cette bonne nouvelle, que les établissements non retenus à ce stade pourront bénéficier des crédits d'attribution ponctuels, ce qu'on appelle des crédits non reconductibles. Mais cela veut dire quoi ? Bien, la méthode ne fonctionne pas. On voit bien que le secteur s'appauvrit, on voit bien que le secteur est sous-financé. Les associations le disent depuis fort longtemps, associations, je le répète, qui sont des gestionnaires sérieux et des militants. Donc on voit bien que le grand âge n'est pas encore là, que la loi que nous attendons depuis fort longtemps sur la dépendance n'est pas encore au rendez-vous. Eh bien, on préfère donner des fonds d'urgence. Nous allons les prendre, bien entendu, parce que ces associations, ces établissements sont en difficulté. Je termine par une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les partenaires sociaux ne se sont pas mis d'accord pour avancer dans le secteur qui est le nôtre, de la non-lucrativité, des solidarités, de la santé, du secteur social et médico-social, sur la convention unique étendue. Partenaires sociaux, je le rappelle, je les renvoie dos à dos, les syndicats d'employeurs, FEAP, Nexem, dans la Confédération Access, et les syndicats de salariés, les organisations syndicales. Pas d'accord, pas d'avancée, tout est bloqué. Alors qu'on sait que dans notre pays, les conventions collectives sont importantes, 80% des salariés sont abrités, sont protégés par une convention. On voit bien que dans notre secteur, cela n'avance pas. J'en termine la conférence des métiers du 18 février 2022 qui avait été promis par le ministre Jean Castex, Premier ministre. Alors, pas mis en œuvre, tout cela traîne, pas de convention, tout cela sera difficile. Nous verrons ce que feront les stratèges dans les appareils des organisations syndicales et organisations syndicales d'employeurs. Mais j'ai l'impression que ceux qui sont à la manœuvre ne sont pas des grands stratèges. En attendant, le secteur se porte mal. Madame Camas, votre sentiment sur ces deux, la bonne et la mauvaise nouvelle ?
Oui, alors moi, j'ai plutôt l'impression que c'est deux mauvaises nouvelles, finalement, dans le sens où, effectivement, avoir un fonds d'urgence pour soutenir les EHPAD, c'est une mauvaise nouvelle. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que effectivement, on a des financements complémentaires pour certaines de nos EHPAD qui sont en très, très grande difficulté. Mais c'est quand même une mauvaise nouvelle sur la difficulté que connaissent aujourd'hui le secteur des EHPAD et des services à domicile, puisque ça concernait EHPAD et services à domicile. Et que, effectivement, le mode de financement de ces structures aujourd'hui arrive un peu au bout du chemin, que les EHPAD ont subi de plein fouet la question de l'inflation, des difficultés aussi de l'attractivité des métiers qui amènent aussi les directeurs d'EHPAD à faire appel à l'intérim, qui a un impact important hein, sur le financement et sur les budgets des établissements. Donc on arrive là, je crois, parce que là on parle de 49 EHPAD, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont dans des difficultés importantes. Hein. Réseau gère des EHPAD, on en gère 5. Et effectivement, sur 5, on en a 4 EHPAD qui, 2022 et surtout 2023, les comptes n'y sont pas.
Ne sont pas bons,
voilà, parce qu'il y a des difficultés et donc ça va avoir un impact, je pense, sur aussi des décisions que devront prendre certains gestionnaires dans le secteur. Alors moi, je parle du secteur non lucratif, hein, puisque nous, on fait pas de gains sur la gestion. Hein. L'idée, c'est d'apporter le meilleur service aux personnes avec les moyens qui sont les nôtres. Aujourd'hui, l'ensemble des EHPAD sont, en tous les cas de réseau et pas les seuls, sont en déficit sur l'exercice 2023. Et donc, si on n'est pas soutenu de manière structurelle, je pense que le secteur, de manière générale, du grand âge, sera en grande difficulté. Donc là, il y a de vraies, vraies préoccupations de l'ensemble des acteurs du secteur du grand âge pour essayer de faire entendre notre voix et faire en sorte qu'on soit soutenu pour qu'on continue à porter aussi ce qu'on fait au sens au niveau des associations non lucratives. Il y a aussi le secteur public, mais on n'est pas tout à fait logé à la même enseigne aujourd'hui. Et effectivement, alors c'est une bonne nouvelle quand on est sous l'eau, mais c'est pas une bonne nouvelle d'être sous l'eau. Voilà.
Réseau, vous êtes directrice générale depuis 2018. Aujourd'hui, rapidement, carte d'identité, 37 établissements, 1200 salariés. Vous suivez plus de 2600 personnes accompagnées. Vous avez parlé des EHPAD, mais vous parlerez également des autres secteurs. L'association a un budget de 80 millions d'euros. C'est quand même une grande association dans la région Occitanie. Comment est née cette association Réseau? Je rappelle, le Réseau, c'est Résilience Occitanie.
Alors, Réseau est né, on va dire, le début vraiment de Réseau, qui ne s'appelait pas Réseau à l'époque, je vais y venir, ça date de 1963. Donc, on est vraiment dans le début des associations, on va dire, qui sont structurées,
après-guerre.
Voilà, ouais. Avec l'avènement aussi de la sécurité sociale qui a permis aussi de financer certains établissements pour enfants, notamment handicapés. Et donc, elle s'est créée, ce qui est assez original, par, au fond, la société civile, d'une certaine manière, puisque c'était des familles et, enfin, des parents d'enfants handicapés et des enseignants, des instituteurs. C'était le Syndicat national des instituteurs, le SNI, qui, donc, avait, en 63, se sont mobilisés pour créer.
Ce sont des militants, souvent, à l'éducation
absolument
populaire, à ceux qui étaient vraiment en présence des enfants en difficulté. Il fallait trouver des solutions parce qu'il n'y avait
exactement
pas de réponse de la puissance publique.
Et donc, avec aussi l'aide de la mairie de Toulouse, à l'époque, ils ont créé une première classe à l'intérieur de l'école du centre, à Toulouse. Hein, qui a donné après l'école des 36 ponts et d'autres choses. Et donc, on fondait, en lien avec le mouvement national de la Fédération des APAGE, des APAJH, de l'APAJH, un comité local.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'était exactement cette...
Alors, c'est le grand mouvement des fédérations qui se sont créées donc, dans les années 60. On a plusieurs mouvements. Donc, c'était un mouvement laïque qui est parti à partir notamment de parents et d'enseignants, et donc qui est l'association des personnes adultes et enfants handicapés, donc qui datent des années 60, et donc qui ont essaimé d'une certaine manière dans toutes les régions de France. Et donc il y avait la fédération au niveau donc parisien, et ensuite alors, c'est vraiment des militants historiques. Et
une organisation par département.
Par département, par, exactement.
Un regroupement de plusieurs départements.
Voilà. Normalement, c'était par département. Et donc, 63, l'école du centre, donc, on crée une première école un peu spécifique. Les fondateurs arrivent à avoir un financement du ministère de la Santé pour accompagner les enfants handicapés dans cette école ordinaire. Et c'est comme ça que commence à se créer, en fait, d'une certaine manière, le comité départemental qui était rattaché au niveau national. Et donc, ça a perduré. Il y a une relative autonomie dans les années 68 de l'association APAGE 31, qui prend sa forme sous forme associative. Et l'association commence à se créer et à se développer avec la création d'établissements pour adultes. Au démarrage, un CAT, c'est un centre d'aide par le travail, une entreprise adaptée qui va se créer dans les années 70. Et en fait, c'est tout le secteur, enfin, l'association va se développer avec le développement que connaît le secteur, c'est-à-dire la structuration d'un secteur autour de l'enfance, dans un premier temps, et autour du secteur adulte, dans un deuxième temps.
Adulte handicapé.
Voilà, adulte
et
handicapé.
Et donc, réseau se crée en 2000.
Alors, réseau, l'histoire de réseau, c'est au fond une histoire un peu de rupture, puisque on faisait partie de la fédération des APAGE, et pour des raisons de développement, il a été choisi, en fait, de sortir, en fait, de la
fédération. De sortir du réseau, quoi.
De sortir du réseau, paradoxalement, et donc, en continuant à s'appeler réseau, et réseau étant la contraction de résilience Occitanie. Et je pense que pour les administrateurs de l'époque, la notion de résilience, elle s'appliquait au fond plutôt aux personnes en situation de handicap, avec l'idée qu'elles pouvaient rebondir et trouver finalement une autre forme, puisque la résilience, c'est aussi la déformation finalement et le fait de pour un métal de retrouver sa forme initiale. Et l'idée, c'était de redonner une possibilité à ces personnes de trouver une nouvelle voie. Et au fond, je pense que la sortie quand même de réseau du secteur des APAGE a été quand même une période, puisque on avait des fondateurs historiques aussi du mouvement national des APAGE, avec des présidents à l'époque qui avaient été des personnes éminentes du mouvement national. Donc ça a été quand même une rupture qui a été un peu difficile.
Oui, parfois les ruptures il y a des crises dans les associations.
Exactement. Bon, donc c'était
parfois la crise permet.
Elle était
de
nécessaire
sortir,
peut-être, mais en tous les cas voilà. Donc ça a été un moment. Alors je trouve ça assez amusant parce que résilience, c'est aussi, je pense, s'appliquer autant à la gouvernance à l'époque que à l'idée que les personnes avaient de porter un projet émancipateur et citoyen pour les personnes qu'on accompagnait. Donc ça s'est fait en 2013.
2013.
Voilà, c'est la date de sortie. Et Réseau a ceci de particulier que dès 2009, alors que l'histoire, enfin l'ADN vraiment de Réseau, c'est l'inclusion, en fait, dès le départ, c'est vraiment la fondation se fait autour d'une classe dans le milieu ordinaire. Et ça, c'est vraiment l'ADN de l'association qu'elle a toujours aujourd'hui.
La société inclusive,
exactement.
C'est dans les valeurs que vous portez,
totalement.
Et dans le projet associatif.
C'est totalement ça. Et avec une particularité, on peut dire, c'est que dès 2009, l'association et les administrateurs choisissent d'aller vers le champ des personnes âgées.
Donc vous avez aujourd'hui, vous avez dit, 5 EHPAD.
C'est
que
ça.
Vous gérez. Vous êtes présent dans toute la région Occitanie ou dans quelques départements
non,
dus
on est plutôt dans l'Ouest.
Au développement de l'histoire.
On est donc, la base, c'est la Haute-Garonne. Ensuite, on est sur le Tarn-et-Garonne, sur le secteur de l'enfance et enfance handicapée. Et ensuite, on est sur l'Ariège avec la partie Saint-Girons, où on a donc un secteur plutôt personnes âgées. avec un accueil de jour un peu particulier, itinérant, ce qui est quand même assez original.
Assez original.
Voilà. Et un SIAD et un service à domicile, ce qui constitue aujourd'hui les nouveaux services autonomie. Donc voilà, on est
donc des EHPAD de combien de places,
vous êtes 80, dans la entre 76 et 80, voilà, c'est des EHPAD, voilà, on va dire, standard pour le secteur associatif.
C'est pour le secteur adulte, grand âge.
Oui.
Est-ce que vous avez des enfants?
Oui, on a des enfants donc avec les établissements, on va dire, historiques du secteur du handicap, c'est-à-dire des IME.
Donc les instituts médicaux
éducatifs. Les CESAD, donc, qui sont la partie plus à domicile, les accompagnements pour les enfants pariés en situation de handicap. Et on a tout un secteur assez important des unités d'enseignement externalisées, c'est-à-dire des écoles, puisqu'on a gardé avec des classes dans des écoles, que ce soit dans des collèges, des écoles élémentaires ou en lycée, hein, puisqu'on travaille aussi avec des lycées pro. Donc ça, c'est l'ADN où on retrouve effectivement cette caractéristique de l'association qui se retrouve, que ce soit dans le 82 ou dans le 31, où nous sommes très implantés.
Les structures, parce que vous dites on accompagne sur les 37 établissements, vous accompagnez 2600 personnes. Les établissements sont des établissements de taille, pour en te dire moyenne, c'est par établissement, c'est 30, 40, 50 salariés, c'est à peu près cela pour accompagner 70 élèves, 100 jeunes, 110, non.
Ça dépend, parce qu'on va avoir des établissements, alors si on parle avec...
Parfois du handicap lourd.
Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on peut avoir pour les adultes certains établissements où on a une cinquantaine de places, par exemple une maison d'accueil spécialisée. Et donc on va retrouver à peu près une cinquantaine de salariés, et ensuite on peut se retrouver avec des établissements qui aujourd'hui, dans la logique de parcours que nous devons déployer et renforcer, on va avoir des établissements, ce qu'on appelle comme entre le CESAD, l'IME, ce qu'on appelle maintenant, puisqu'on doit proposer à des personnes une notion de parcours en fonction des besoins. Donc la personne, elle peut faire de l'ambulatoire, c'est-à-dire être à la maison et être accompagnée, elle peut venir en accueil de jour ponctuellement, ou voir éventuellement bénéficier de temps d'internat ou de répit pour les familles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des dispositifs qui sont finalement plus fluides, plutôt que d'avoir le côté très
en silo
où on est accompagné que pour un type d'accompagnement. Là, au contraire, on doit déployer finalement plus de diversité et de complémentarité dans ce qu'on propose aux personnes. Donc là, lorsqu'on est là-dessus, on peut avoir un établissement où on a plus de 200 enfants avec plusieurs sites, et on a une centaine de salariés. Ça va être le cas, par exemple, du dispositif de Porte de Garonne qui est assez ouvert et propose.
Et là, vous avez un IME, vous avez des ITEP et des classes.
Voilà.
Et des classes externalisées.
Exactement.
Des jeunes qui vont à l'école, au lycée, c'est ça.
Donc plusieurs sites. Par exemple, comme on parlait de lycée, je prends l'exemple d'un autre IME comme les 36 ponts, où on a effectivement des enfants en collège, en lycée, avec le lycée pro René Bonnet, on a une classe. Et on a également ensuite des classes maternelles, ce qu'on appelle des UMA, pour les enfants qui souffrent de troubles autistiques. Donc des petits, 3-6 ans, où on est dans l'école ordinaire, et avec des classes spécialisées et des professionnels spécialisés qui accompagnent ces enfants dans une démarche vraiment inclusive.
Je vous propose, plutôt guitare de Forestier, comme un arbre dans la ville.
Dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville. J'ai grandi loin des futaies, où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, pour pousser je me débat, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville. J'ai la fumée des usines pour prison et mes racines, on les recouvre de gris. Comme un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville. J'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles. Comme un arbre dans la ville. Entre béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu. Des parkings d'honneur posthumes entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville. Ami fait après ma mort, barricade de mon corps et du feu de mes brindilles. Comme un arbre dans la ville.
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, en présence de Christelle Camas, directrice générale de Réseau Résilience Occitanie. Et nous parlons de son association, de ses établissements, des IME, des ITEP, des EHPAD, des CESAD. Tout cela, vous connaissez, chers auditeurs, on en a déjà parlé, de l'ambulatoire. L'ADN de cette association, la société inclusive, on fait tout pour que la personne en situation de handicap puisse trouver sa place, bien entendu, dans notre société. Mais vous avez parlé des maisons d'accueil spécialisées. Et alors, c'est important que s'arrête un court instant. C'est quoi accueil spécialisé? C'est des personnes qui ont des pathologies particulières, de handicaps particuliers?
Oui, c'est des personnes qui, généralement, ont un handicap lourd, qui nécessitent d'avoir des accompagnements importants dans la vie quotidienne. Et donc, ce sont des personnes qui vont avoir des polyhandicaps avec parfois des handicaps associés ou qui ont été sur des problématiques, par exemple, de cérébro-lésions. On peut avoir ça aussi Alors, on a un établissement spécialisé depuis une vingtaine d'années qui est un foyer d'accueil médicalisé pour ce type de public.
C'est dû à quoi, à ce type d'handicap? À des accidents?
Oui.
Problèmes de naissance? Problèmes de...
Alors, la cérébro-lésion, enfin, en général, sur l'établissement, le foyer d'accueil médicalisé, là, c'est pas la masse, oui. Foyer d'accueil médicalisé Fonperret, accueille donc des personnes qui sont cérébro-lésées suite à des accidents.
Suite à des accidents.
Donc, ça, c'est quelque chose de très particulier parce que c'est des gens comme vous et moi qui ont eu un accident de la route. Alors, ça peut être jeune ou à n'importe quel âge de la vie. Et donc, qui se retrouvent dans une situation de handicap avec un type de handicap particulier, puisque les personnes peuvent avoir des comportements qui ne sont pas forcément lisibles a priori, quand on ne connaît pas ce type de handicap. Donc, voilà, ça peut être ce type d'expertise qu'il faut qu'on développe, si vous voulez, avec ce type de public et ce type de handicap. Et après, la maison d'accueil spécialisée que nous avons, elle accompagne des personnes avec du polyhandicap, mais aussi on peut avoir des personnes avec ce...
Donc là, vous avez des médecins, vous avez beaucoup d'infirmières pour quand vous dites médicalisé,
alors, c'est pas l'hôpital,
ça peut ressembler à une clinique, non?
Non,
ou
pas
un même mini-hôpital.
Oui, alors, effectivement, il y a du soin. Donc là, la question du soin est importante qu'on doit pouvoir assurer. Donc on a des personnels soignants avec infirmiers et puis tout ce qui est les réadaptateurs. Donc infirmiers, il y a des médecins et des réadaptateurs, pardon, qui peuvent être là. Ça peut être des psychomotriciens, par exemple. On peut avoir des équipements dédiés avec des piscines, enfin avec des types par exemple des... Je pense qu'il y a des professionnels qui vont être très spécialisés avec des kinés. Peut-être les gens, on doit développer ce type de...
Là, on voit bien que c'est une population, sur l'idée de l'inclusivité, de la société inclusive, c'est plus difficile, ces polyhandicapés, ces personnes en situation polyhandicapée. Mais malgré tout, vous arrivez à...
Alors, je pense qu'il y a plusieurs façons. C'est-à-dire, déjà, ouvrir... c'est-à-dire que les personnes ne sont pas enfermées dans l'établissement. Donc, ça, c'est la première chose.
Nos établissements et vos établissements ne sont pas des forteresses, il faut le dire.
Exactement, ne sont pas des forteresses. Et je pense qu'au contraire, il faut favoriser tout ce qu'on peut favoriser pour aller vers l'extérieur. Pour ces personnes-là, ça peut se passer par tout ce qui est aussi l'inclusion sociale, c'est-à-dire par le loisir, la culture. Donc, il y a plein de possibilités d'accompagner ces personnes pour qu'elles puissent aussi participer à leur façon.
On ne cache pas
façon.
Le handicap, quoi.
Non,
c'est clair.
On ne le cache pas. Et puis après, on a aussi, si on veut travailler sur nous, ce qu'on essaye de travailler vraiment, la question de l'autodétermination et du pouvoir d'agir. Bien sûr, il y a des publics pour lesquels ça paraît peut-être plus difficile a priori, mais c'est tout à fait jouable. Et je crois que le travail qu'on doit faire, aussi minime soit-il, a priori, doit être fait pour donner aux personnes la possibilité de dire ce qui leur vaut bien, de dire vers quoi elles veulent aller, exprimer les désirs qu'elles ont et qu'on doit pouvoir, dans une certaine mesure, accompagner. Et même les personnes les plus empêchées peuvent quand même communiquer un certain nombre de choses si on travaille sur des communications alternatives, par exemple.
Vous parlez d'autodétermination de la personne accompagnée. Il y a des choses. Ce sont des vrais citoyens, il faut le dire. Hein. Ce ne sont pas des sous-citoyens, parfois.
Qui ont le droit de vote, depuis pas longtemps.
Développement des personnes, ils ont des capacités, à faire des choses. Dans tous vos établissements, le conseil de la vie sociale fonctionne, les familles viennent, les personnes âgées participent.
Alors pour nous, c'est un vrai levier, justement, par rapport à la question...
C'est une vraie démocratie, la démocratie associative.
Voilà, il faut l'accompagner, il faut donner la place aux personnes elles-mêmes. Donc, effectivement, il y a eu des évolutions sur la question des CVS, des conseils de la vie sociale. Donc, on a procédé aux nouvelles désignations, élections, etc. Avec l'idée de donner le plus possible, alors c'était déjà le cas, mais de le renforcer, la place aux personnes donc, qui sont accompagnées, que ce soit les personnes âgées ou les personnes, qu'elles soient y compris en masse ou dans des ESAT, de pouvoir prendre leur place et de travailler vraiment sur le fait qu'elles puissent animer, proposer et participer de manière tout à fait active dans les CVS. Donc notre rôle, c'est aussi de lever les freins à la participation, que ça soit dans les instances de l'association comme à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment un point très important de l'association aussi, de travailler à faire bouger aussi la société à notre niveau, pour transformer aussi le regard qu'ont les personnes sur les personnes en situation de handicap.
Les familles participent à ces conseils de la vie sociale, un peu comme notre association, beaucoup d'auditeurs connaissent les ADAPI. Dans vos conseils d'administration, vous avez des parents, des parents qui ont des enfants en situation de handicap et qui participent à la vie, pourrait-on dire, délibérative de l'association.
Tout à fait, nous avons un certain nombre de parents. Le président de réseau, lui-même, est parent d'enfants en situation de handicap. Et donc, il y a effectivement la volonté aussi de donner la place qui doit être donnée à l'ensemble des acteurs qui sont autour d'eux, parce que l'idée, c'est que la personne est experte de sa vie. Enfin, ça, c'est un peu ça l'idée. Mais les familles doivent être aussi soutenues dans le travail aussi qu'elles peuvent faire dans l'accompagnement de leurs propres proches, dans les proches aidants. Donc, mais c'est chacun à sa place. Et c'est vrai que les CVS, l'objectif premier, c'est la place, c'est les personnes qui sont accompagnées. Et on a des expériences très intéressantes, notamment à l'ESAT Châteaublanc, avec de la père aidance et avec des travailleurs des ESAT qui sont très actifs et très dynamiques. Et donc, on essaye de s'appuyer là-dessus aussi pour accompagner, transmettre et essayer d'être le plus proche possible de ce que peuvent faire les personnes et comment elles peuvent l'exprimer dans le cadre de ces instances.
Votre ADN, Madame Camas, vous dites oui, la société inclusive, dans l'école, essayer d'accompagner un maximum de jeunes dans une scolarité la plus normale possible. Les relations avec le rectorat, l'éducation nationale, ce sont des relations cordiales. Vous arrivez assez facilement à trouver des classes, des équipes éducatives, des communautés éducatives qui vous soutiennent, où il faut se bagarrer un peu, il faut négocier.
Alors, on va dire que...
J'imagine peut-être que les deux.
Mais... non, mais je pense qu'il y a un travail à faire pour que ça soit des deux côtés. Alors, déjà, la question des classes, des locaux, ça, c'est la mairie, ce sont les mairies qui nous permettent d'être plus ou moins bien inclus aussi dans les, dans les écoles.
Au sein de l'institution et école, quoi.
Exactement. Entendu. Donc ça, c'est un point très important. Alors, sur la mairie de Toulouse, y compris sur la mairie de Montauban, on est tout à fait soutenu. Et ça, je pense que c'est aussi parce qu'on a une histoire ancienne qui fait qu'on est très bien repéré là-dessus.
Et que vous êtes reconnu.
Et qu'on est reconnu là-dessus. Ensuite, avec l'éducation nationale, je pense que l'éducation nationale a eu beaucoup de travail à faire aussi pour intégrer la question de l'inclusion des enfants en situation de handicap. Le compte n'y est peut-être pas, et les familles le font savoir en général. Nous, pour le travail que nous faisons, on essaye de travailler le mieux possible dans les écoles. Et dès lors que la communauté éducative qui nous reçoit comprend tout à fait l'intérêt qu'il y a à travailler de concert, ça se passe en général plutôt bien, même très bien. Et ensuite, la difficulté, c'est lorsque c'est pas trop préparé. Là, par exemple, on travaille sur un projet, un dispositif... Qui va se mettre en place et qui est assez innovant, d'un CESAD pour les plus de 16 ans, pour les enfants qui sont un peu c'est un dispositif d'insertion en lycée. Là, aujourd'hui, si on n'a pas complètement préparé en amont, nous, lorsqu'on arrive, effectivement, on arrive un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Donc, je crois que l'intérêt pour les enfants, c'est de vraiment faire en sorte que que ce soit l'éducation nationale, enfin, je parle des gens qui doivent nous accueillir, comme nous, on puisse travailler de concert.
Il faut que la relation entre l'éducateur, le psychologue et les enseignants de l'école ou les enseignants du collège ou du lycée, tout cela soit le plus fluide possible. C'est ce que vous
oui, êtes... tout à fait, qu'on puisse vraiment voir l'intérêt qu'on a à travailler ensemble. Je vais juste prendre un exemple. Oui. On a mis en place un projet autour du cinéma. Et on est intervenu avec des films, et c'est il y a un festival à Namur. Sur un festival qui est autour du festival Handicap. Et donc, on a travaillé sur cette question-là et on a travaillé avec l'idée qu'on allait vers les communautés, vers l'école. C'est-à-dire qu'on devait travailler vers les enfants pour qu'on puisse faire changer le regard, donc au plus proche des plus jeunes et des citoyennes de demain, en fait. Et là, le travail qu'on a fait et le fait d'associer complètement l'éducation nationale là où on était déjà implanté, ça a été quelque chose de très très positif aussi dans le travail, puisque, y compris pour les enseignants, ce sont aussi des leviers de travail, de réflexion, et ils ont pu aussi partager aussi avec nous autre chose que d'être trop à côté. C'est-à-dire qu'il faut aussi que nous, on soit peut-être plus dynamique dans le fait de s'investir aussi réellement dans la communauté éducative.
Et l'émergence de projets communs. Vous avez des problèmes de recrutement, vous avez eu des problèmes de recrutement pour recruter en particulier des enseignants qui vont s'occuper de ces jeunes-là, particuliers, à enseigner quand on a un handicap. Souvent, on n'est pas préparé. Hein. On est bien sélectionné, comme on dit, sur un concours. Mais la difficulté du handicap fait qu'on a du mal à y aller. Pas trop de difficultés, pourrait-on dire, aujourd'hui, dans le secteur pour ce recrutement?
Alors, peut-être que pour le recrutement, je ne sais pas si je peux dire qu'on a des difficultés. Ce qui est peut-être, effectivement, c'est ce que vous dites, là où ça peut être difficile, c'est si... les personnes ne sont pas complètement préparées, j'ai envie de dire, ça passe ou ça casse. Par contre, les enseignants qui, eux, restent...
C'est vraiment un choix.
Oui, c'est vraiment un choix et c'est très, très intéressant. Et je pense que c'est vraiment un apport. Nous, on le voit dans les IME, le personnel enseignant, éducatif qui vient, dès lors qu'il est engagé, ça ouvre des perspectives aussi et de travail, d'évolution et de parcours pour les enfants très intéressants. Et surtout, c'est aussi un lien dans le fait qu'ils peuvent bien communiquer aussi avec leurs collègues enseignants dans le milieu ordinaire. Et nous, vraiment, on porte ça, c'est d'aller vers le milieu ordinaire. Et donc, c'est vraiment aussi des facilitateurs. Nos propres enseignants sont aussi des facilitateurs pour qu'on puisse aussi mieux travailler avec les enseignants du milieu ordinaire.
Le syndicat d'employeurs dit que dans le secteur dit social et médico-social, il y a une pénurie, il nous manquerait 50 000 salariés. Vous êtes en plein emploi, vous, à Réseau, actuellement, ou vous avez encore quelques difficultés, vous cherchez des gens? On peut inviter nos auditeurs à aller sur votre site pour aller chercher peut-être vous envoyer des CV.
Oui, 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 tout à fait. Non, disons que effectivement, on a des, il y a des métiers sur lesquels on a des difficultés quand même.
Voilà, il y a certains métiers en tension, mais pas partout, c'est ça.
Par contre, il y a des endroits où des métiers qui n'étaient pas en tension traditionnellement, hein, je pense sur le secteur éducatif, qui commencent alors un peu à l'être ou qui sont beaucoup moins bien pourvus qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Mais effectivement, tout le secteur du soin, hein, tout ce qui est lié, les infirmiers, par exemple, sur les EHPAD.
Voilà, sur les EHPAD.
Voilà, les aides-soignants, les infirmiers, ça reste toujours compliqué. Il y a des établissements, on parlait de la masse, sur lesquels on avait des difficultés de recrutement. Donc, on essaye de faire aussi un gros travail sur la qualité de vie au travail, de retravailler les organisations aussi de travail pour faire en sorte que les gens soient bien chez nous, dans la mesure du possible, et puis surtout restent.
Voilà.
Après, la question de l'attractivité des métiers liée aussi à la question salariale, mais ça c'est une réalité hein, sur laquelle nous on se bat aussi pour essayer de permettre aux personnes d'avoir soit le Ségur pour tous, puisque certaines de nos salariés ne l'ont pas encore, soit des meilleures conditions de travail, parce que ce sont des métiers sur lesquels on doit avoir de l'exigence, puisqu'on travaille auprès de personnes vulnérables. Et nous, on est exigeants avec nos salariés, donc il faut aussi que le travail soit aussi rémunéré
à sa juste valeur. Vous embauchez également des psychiatres et des médecins.
Oui, alors les psychiatres, on n'en trouve plus.
Si on pouvait en trouver. C'est une denrée rare pour toutes les associations.
Voilà, donc si y a un psychiatre qui nous écoute et qui a.
Peut envoyer le CV.
Il peut envoyer le CV, il sera bienvenu. Mais effectivement, oui, il y a des métiers qui sont difficiles. Les orthophonistes, par exemple, on a quelques orthophonistes, mais on a aussi des postes non pourvus. Donc on travaille avec le secteur libéral. Donc on sait qu'aujourd'hui, il faut qu'on hybride un peu le travail avec certains professionnels qui sont en libéral, des professions qu'on ne trouvera pas forcément en...
Vous avez un investissement fort dans la politique de formation avec vos équipes, là, les 1200 salariés. Vous mettez sur la table combien d'argent pour qualifier vos personnels?
Alors, on essaye de travailler sur la formation. Alors nous, on a un projet aussi de mieux structurer la formation, parce que c'est un des leviers effectivement aujourd'hui importants et d'attractivité, et aussi d'accompagner les professionnels dans un parcours. Je disais tout à l'heure, enfin je ne l'ai pas dit, mais j'aurais dû le dire, qu'on cherchait aussi dans les services à domicile. Donc c'est des métiers aussi exigeants, pas toujours très bien rémunérés, hélas, mais pour lesquels, lorsqu'on a des salariés qui font le chemin de venir à nous et on essaye de les accompagner pour les former, on doit pouvoir leur permettre de passer d'un travail à un autre, ou d'un établissement à un autre, ou d'un métier à un autre. Et donc là, on développe effectivement des formations, notamment avec Erasme, que vous connaissez.
L'Institut de travail social, c'est ça ?
Exactement, des projets pour essayer d'accompagner les personnes qui aujourd'hui n'ont pas forcément des qualifications spécifiques, de les accompagner vers de la VAE, avec des formations, un socle commun et des formations très adaptées, très spécifiques aux besoins qu'elles pourraient avoir. Donc on essaye effectivement d'accompagner nos professionnels aussi pour les concerner.
L'ensemble de ces actions vous permet de mieux garder vos professionnels, de les qualifier, de les faire évoluer et d'améliorer les prestations de...
C'est l'objectif.
Toutes les prestations.
Exactement. C'est à la fois d'attractivité.
Vous offrez aux familles et aux enfants, quoi.
C'est d'attractivité et d'expertise, parce que je crois qu'aujourd'hui, la force de nos associations, c'est d'être sur le champ de l'expertise. Et ça, il faut qu'on arrive à le développer, et à pouvoir aussi le développer pour pouvoir porter aussi des projets, des fois innovants. Parce que ça vient aussi des professionnels, les projets. C'est eux aussi qui les portent, quoi.
Alors, je vous propose une deuxième pause musicale. Et là, nous allons partir en Amérique latine.
Entrego el alma y más que eso. Sublime, un amor eterno. Yo quiero una hoguera que se esté encendiendo a cada momento para que prenda el amor en tu corazón y el mío. Un amor tan grande, un amor inmenso, y yo te comprometo hasta el pensamiento, porque hasta en mis sueños tú eres mi único amor y quiero darte todo. Sienta temor de ser mi dueño.
Para regalarte el universo,
solo tengo que mirar al cielo
y gritar tu voz para que el reloj
todo lo detenga hasta el tiempo que tú seas mía.
Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, toujours avec Madame Camas, Christelle Camas, directrice générale de Réseau, Association Réseau Résilience Occitanie. Je reviens, Madame Camas, sur la question de l'inclusivité, sur votre ADN, vos fondements, une expérience forte à l'école, les collèges, le lycée, mais vous me dites aussi que vous avez une expérience, et là, elle est singulière, hein, c'est possible, des jeunes qui sont à l'université. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, tout à fait. Donc, on a effectivement un service qui s'appelle le SAED, donc, qui est aujourd'hui installé sur le campus de Paul Sabatier, et qui accueille des étudiants qui ont des handicaps lourds, mais qui peuvent donc
étudier,
faire leur études supérieures.
Alors, c'est quoi la discipline ? Vous dites Paul Sabatier, c'est plutôt des scientifiques ?
Alors, on a un peu de tout, parce qu'en fait, on est à Paul Sabatier, parce que historiquement, c'est parti de là, mais on peut avoir des personnes qui peuvent être à l'université Jean Jaurès,
sur les sciences humaines, ou
être à l'université de droit ou économie. Et donc nous on accompagne ces personnes-là parce que souvent on a aussi des logements, puisqu'on a, un partenariat aussi avec le CROUS, donc on a des logements adaptés
pour ces personnes-là.
Et un partenariat donc qui est fort aussi avec l'université de Toulouse, qui s'est aussi structuré pour pouvoir accompagner aussi des personnes en situation de handicap, parce qu'il y a un gros travail qui a été fait.
C'est-à-dire
au niveau des universités.
C'est-à-dire qu'il y a un service au sein de l'université, une sorte de service handicap pour permettre, en lien avec vos associations, vos établissements, de bien accueillir les jeunes.
C'est ça. Alors, nous, on a vraiment un périmètre, puisque c'est un service qui est financé par le conseil départemental, se rapporte, on va dire, administrativement à un service d'accompagnement à la vie sociale, mais qui est vraiment dédié pour les étudiants. Et nous, on est en lien aussi avec les référents handicap de l'université.
De l'université.
Et en lien avec le CROUS, qui est le partenaire historique aussi de ce dossier, de ce service, puisqu'il faut avoir des logements vraiment adaptés aux personnes, puisqu'elles sont quand même avec des fauteuils et dans des conditions particulières, puisqu'il faut pouvoir aussi adapter le bureau, le lit, etc. Il peut y avoir des rails.
Et là, les éducateurs, les psychologues de votre association rendent visite aux jeunes, jeunes filles, jeunes garçons, une fois par semaine, tous les jours, on est en contact. Concrètement, comment ça se passe ?
Alors donc, oui, ils n'ont pas besoin trop d'avoir de psychologue, à vrai
non,
dire.
Non, c'est ils plutôt... se portent bien.
Voilà, ouais, exactement. Mais par contre, on travaille vraiment sur le fait qu'ils soient aussi inclus dans le milieu universitaire, avec leur père. Donc, essayer de faciliter aussi les inclusions, leur faciliter aussi des fois l'organisation des cours, des transports ou des choses comme ça. Donc, être vraiment tout ce qui est le fil rouge pour que l'inclusion et la réussite scolaire soient au rendez-vous. C'est-à-dire lever tous les freins à leur participation et à
l'éducation. Vous dites qu'ils sont autonomes, ils sont dans des appartements, les appartements sont adaptés, le logement est adapté. Ce sont les jeunes qui se font la cuisine ou il y a quelqu'un qui vient les aider pour faire la cuisine, pour bien s'alimenter, vous veillez à tout ça ?
Alors, oui, on peut les accompagner s'il le faut, mais bon, je pense qu'ils connaissent bien Deliveroo, à vrai dire. Donc, ils font comme les autres étudiants.
Ils font comme les autres étudiants.
Exactement. Et voilà. Donc, nous, on est vraiment en relais. Et surtout, sur ce service, c'est qu'on assure aussi une veille de nuit, puisque les personnes peuvent ont besoin d'aide humaine aussi pour assurer parfois les couchers. Et s'il y a des difficultés particulières dans la nuit, pour qu'on puisse aussi les accompagner dans des périodes ou dans des actes particuliers dans la soirée. Donc je pense que c'est aussi tout à fait rassurant pour les personnes. C'est aussi rassurant souvent pour les familles, parce que lorsque vous avez un enfant qui a un handicap assez lourd, qui va partir à l'université, ben, ça veut dire que vous êtes aussi sécurisé.
Les familles doivent être inquiètes.
Exactement. Et donc, voilà, donc on accompagne des étudiants qui ont ce type de handicap, et on accompagne aussi des personnes avec des troubles autistiques depuis quelques temps.
Des adultes, là.
Toujours sur le SAED, qui ouais. sont à l'université. Et voilà, et donc on peut être un fil rouge et un sort de filet lorsqu'il y a des moments de fragilité, finalement.
Vous avez parlé tout à l'heure du financement, en disant ce dispositif de l'université, c'est le financement des conseils départementaux. Le financement de l'association, les 80 millions d'euros, c'est l'argent qui vient d'où ? Tout du conseil départemental, de l'ARS, de la cohésion sociale, direct des subventions, des dons.
Donc principalement, nous, on est financés par de l'argent public. Effectivement, notre financeur principal, on va dire, c'est l'assurance maladie. Avec ce qu'on dit l'ARS, c'est l'assurance maladie.
L'assurance maladie,
voilà, qui finance tout ce qui
l'organisme dit de contrôle.
Hein, exactement.
L'ARS de finance.
Et ensuite, le reste, on va dire, pour, c'est pas 40%, mais enfin... quasiment, ça va être conseil départemental ou conseil départementaux, puisqu'on a plusieurs, on a deux départements qui sont concernés, l'Ariège et la Haute-Garonne. Et ensuite, on peut avoir un petit bout de financement de la cohésion sociale, puisqu'on a un service de protection des majeurs. Et voilà, donc on a des financements un peu différents. Et puis après, on peut avoir des dons, quelques dons. Ça, c'est variable. C'est pas,
c'est
hélas,
variable, ouais.
c'est pas aussi régulier
voilà,
qu'on le souhaiterait.
La collecte de fonds, voilà, donc, comme on dit dans le langage anglo-saxon, le fundraising, c'est pas comme ça. Ça vient pas
voilà,
comme ça.
Maintenant, s'il y a des auditeurs qui veulent...
qui veulent faire un don
voilà,
à l'association.
Pas, qui n'hésitent pas, on saura bien les accueillir.
Alors, dites-moi, pour parler plus personnellement, en parcourant votre CV, vous êtes une femme de droit, vous avez fait droit des affaires, ensuite droit public, relations internationales, NDEA de droit. Comment on arrive au handicap en faisant du droit ? C'est quoi un jour ? Vous vous levez le matin, vous dites « je veux aller vers ces métiers du handicap, de la direction générale ». Comment on devient directrice générale? C'est en vous rasant tous les matins?
Oui, à peu près. Non, j'y pensais pas tous les matins. Après, c'est des parcours aussi professionnels. Alors, il se trouve que, on parlait d'ADN tout à l'heure, bon, dans la famille, effectivement, j'avais aussi quelques attaches familiales avec la question du handicap, au sens où j'avais un père qui a été aussi et militant et directeur de CMPP, donc voilà, il y avait quand même.
Alors, le CMPP, pour les auditeurs.
Centre médico-psychopédagogique, mais bon, voilà,
c'est plus les enfants.
Ambulatoire, voilà, pour des enfants qui pouvaient être un peu en difficulté, des fois, scolaires, et c'était le. Voilà, donc, qui était dans ce chemin-là, et il se trouve que je suis rentrée dans le secteur par le droit, au fond, puisque mon
premier. Alors, vous démarrez votre carrière comme responsable juridique et administratif, donc auprès de la direction générale d'une association, donc alors là, il doit y avoir des problèmes juridiques dans les associations, j'imagine.
Oui, des collègues avec lesquels on travaille avec grand plaisir. Donc j'ai commencé effectivement dans le secteur à l'ARCEA. Et moi, j'ai été très, très intéressée parce qu'il y avait une grande diversité aussi de sujets, que ce soit le droit des personnes, comme ça pouvait être la question des fusions, puisque dans les années, 2000, voilà, j'ai beaucoup travaillé sur des questions de fusion, absorption, qui était assez.
Regroupement
d'associations. Donc il y avait des sujets très très intéressants et très très divers, qui touchaient autant la question des personnes elles-mêmes que la structure de l'association avec des dimensions à la fois économiques, juridiques, stratégiques. Le travail s'est fait, puis le parcours m'a amené effectivement à aller vers d'autres associations, découvrir d'autres univers, et puis à un moment donné, se dire ben, peut-être qu'on peut aller plus loin, parce que c'était l'idée, la direction générale aussi, de porter un projet qui était aussi un projet avec des hommes et des femmes, c'est-à-dire des professionnels, au service de personnes qui, pour lesquelles on pouvait aussi soutenir un peu d'innovation, essayer d'avoir peut-être des actions qui pouvaient faire changer la vie de ces personnes-là, quoi. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé, c'était de se dire qu'il y avait des choses de l'ordre du possible, à un niveau avec beaucoup d'humilité, et de faire évoluer et changer peut-être certaines choses.
Et pourquoi réseau? À un moment donné, j'imagine qu'il y a eu une opportunité, mais le choix, parce que souvent on a le choix, hein, on cherche des directeurs généraux et des directrices générales dans beaucoup d'associations, quand même, dans la région. Voilà, pourquoi réseau? Qu'est-ce qui vous a motivé? C'est la rencontre avec le président, c'est la résilience, ce terme, c'est.
C'est le challenge.
C'est le challenge. Parce
que, réseau, il y avait un vrai challenge parce que ben voilà, l'association avait connu une période un peu difficile et il y avait effectivement aussi une opportunité. Et comme je l'expliquais, c'était aussi une association avec un historique et une vraie, un vrai ADN, des vrais militants. Je trouvais ça très intéressant dans le projet de l'association qu'elle avait toujours porté. De relever.
Vous retrouvez dans ses valeurs, quoi.
Ah, totalement, puisque c'est des valeurs, valeurs laïques, hein, qui a toujours porté l'association, et avec l'idée de soutenir l'émancipation des personnes et un projet de citoyenneté, vraiment, et de travailler vraiment sur l'autodétermination et la place des personnes comme citoyennes, quoi.
Depuis 2018, à la tête de réseau, vous vous donnez 10 ans, 15 ans, vous dites après je veux changer d'opportunité. Je ne veux pas de scoop, hein, Madame Camas, mais bon, est-ce que vous avez un plan de carrière?
Non, je n'ai pas de plan de carrière, mais j'ai un plan avec des personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'aventure humaine que nous avons, que moi j'ai aussi avec mes collaborateurs, avec les professionnels de réseau, avec les administrateurs, avec le président de l'association, et de porter un projet. Et ça se fait, ça s'inscrit dans le temps. Donc je pense que pour moi, diriger s'inscrit dans un vrai temps. Il faut du temps pour faire évoluer les organisations, il faut du temps pour porter des choses, et je crois que si on veut porter aussi une vraie équipe, parce que je crois beaucoup à ça, Si on veut porter aussi l'intelligence collective, ben, il faut aussi le temps de faire mûrir les organisations. Donc, tant qu'on peut travailler dans cet état d'esprit-là, je serai à réseau, oui.
Alors, je vais poser une question qui est peut-être très genrée, mais tant pis. Est-ce qu'il y a une différence entre la façon de gérer d'un directeur général, il y aurait une façon de gérer d'une directrice générale, où il y a ce qu'on appelle des invariants, quoi qu'il en soit.
Il faudrait le demander. Il faudrait le demander à mes collaborateurs, autrices, ceux qui ont connu le avant et le après.
Et le après. Le garçon et la fille.
Oui, le garçon et la fille. Je ne sais pas si c'est genré. C'est difficile de répondre à cette question. On pourrait, de manière très rapide, dire oui, c'est genré. On n'est peut-être pas sur les mêmes. Je ne sais pas. Je pense que c'est la personnalité. Moi, je pense que c'est la personne qui porte ça, homme ou femme. Il y a des femmes peut-être. On peut dire très autoritaire, très comme ci, comme ça, et puis des hommes très comme ci, comme ça. Bon, moi, je crois que c'est le projet qu'on a, managérial, le projet qu'on veut porter avec les autres. C'est ça qui va faire que c'est la personnalité, si vous voulez, qui va donner la couleur à ce qu'on peut-être à la façon qu'on va avoir de manager. Est-ce que c'est le genre? Je ne crois pas.
Je sais que vous êtes également impliquée au sein des têtes de réseau, FEAP, vous êtes aussi une femme publique, vous êtes dans des instances, vous êtes présente pour défendre des positions du réseau, bien entendu. Le secteur, on avait démarré par la bonne et la mauvaise nouvelle, le secteur malheureusement se porte pas très bien. Quel est votre regard s'il fallait faire un bilan depuis que vous avez commencé à travailler en 1999, votre premier poste, vous dites, allez, je fais là une rétrospective, comment sommes-nous aujourd'hui? Le secteur s'est dégradé, vous dites, il y a des possibilités, il y aura des...
Moi, je dirais que ça s'est accéléré. Quand moi, j'ai commencé à travailler, ça a commencé avec des réformes avec les lois Aubry, hein, ça a commencé en 98, je vais à peu près arriver à cette période-là, 98-99, et ça n'a cessé de... Les réformes, les modifications, et ça s'est accéléré. Je pense qu'il faut que... Ce qui est bien, c'est le fait d'entendre aussi la voix des personnes en situation de handicap, de leur famille. Ça, on peut pas
faire. Et là, c'est une avancée considérable.
Ça, c'est nécessaire et c'est impératif. Voilà. Peut-être que des fois, on aimerait ralentir un peu pour peut-être mieux repartir ou mieux travailler à réfléchir, à re-réfléchir au projet. Mais je dirais que c'est aujourd'hui l'accélération. Après, effectivement. Ben, aujourd'hui, le niveau d'exigence que nous avons nécessite aussi d'avoir des financements et aussi d'avoir peut-être ce qui s'est dégradé, c'est quand même la question salariale dans le secteur, de manière...
Ça, c'est clair.
Voilà, et ça, c'est démontré.
Tous les experts le disent, c'est documenté, voilà, toute cette question.
C'est documenté, les indicateurs sont connus. Donc ça, c'est un peu ce qui est dommage. C'est-à-dire, comment je suis arrivé vraiment, aujourd'hui, peut-être que j'espère que c'est pas toujours le cas, mais les gens, c'était un vrai choix de venir travailler dans le secteur médico-social. Aujourd'hui, peut-être qu'il peut y avoir des personnes qui le font peut-être par défaut. Et ça peut pas être possible qu'on travaille par défaut au service, dans les métiers que nous faisons, au service
des... Les métiers de l'humain méritent, bien entendu,
et donc,
une attention particulière.
Il faut les valoriser et on participe, nous, à essayer de se faire entendre avec... la FEAP et son sémillant délégué régional.
Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci Madame Camas. Bravo à cette belle association que vous dirigez, Réseau Résilience Occitanie. Vous vous préparez à l'évaluation bientôt? Vos équipes sont prêtes, sont aguerries?
On a commencé, ça y est. On
ça
a
y
déjà
est,
commencé
avez les
en 2023.
Les premiers visiteurs qui sont venus.
Ça s'est pas si mal passé. Donc, par contre, effectivement.
Ça vous encourage pour la suite?
Oui, puis il faut s'en servir comme des leviers de transformation et d'aller toujours de l'avant et puis de réfléchir à se remettre en question pour mieux faire au service des personnes qu'on accompagne.
Merci chers amis, chers auditeurs, sentinelles d'humanité. Aujourd'hui, Madame Camas, directrice générale de Réseau Résilience Occitanie, nous avons fait le tour de l'association, de ses valeurs, de ses équipes et de ses projets. À la semaine prochaine, à très bientôt.
Merci.